buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Sanctions ciblées contre ceux qui ont confisqué la démocratie et qui tiennent en otage le peuple congolais. Sanctions ciblées contre ceux qui violent la Constitution. Sanctions ciblées pour les auteurs des crimes contre l'humanité.
Bonjour à tous. Elle est la seule eurodéputée d'origine africaine du Parlement européen et elle lance aujourd'hui un appel à 2 ans des élections européennes. Cécile Kyenge souhaite voir plus de diversité au sein des institutions. Cette femme politique elle-même a dû faire face au racisme tout au long de son parcours. Lakshmi Lotha l'a rencontrée à Bruxelles.
Cécile Kyenge se préoccupe plus des combats qu'elle mène au sein du Parlement européen que de ce qui lui arrive quotidiennement. Insultes, menaces sur les réseaux sociaux, l'eurodéputée du groupe des socialistes doit encore se déplacer sous protection.
Je suis encore attaquée là, par des groupes de racistes et c'est pour ce motif que je vis encore sous protection.
Elle est arrivée du Congo avec un visa étudiant en Italie lorsqu'elle avait 18 ans pour faire des études d'ophtalmologie. Parvenue à son but, elle poursuit une carrière politique, élue locale, députée, puis en 2013, Cécile Kyenge devient la première ministre noire d'un gouvernement italien, ministre pour l'intégration. La femme politique encaisse alors avec ce nouveau statut, jet de peau de banane, appel au viol, insulte raciste. Le vice-président du Sénat italien la compare à un orang-outan. « J'ai encore de nombreux procès en cours », lance-t-elle un peu lasse. À 52 ans, Cécile Kyenge a d'autres projets en tête. Dans son regard, la détermination et une force intérieure qui l'ont certainement conduite là où elle est. Au Parlement européen, la députée s'occupe des dossiers sur les migrants, le développement et la lutte contre l'afrophobie. Cécile Kyenge a un souhait pour les prochaines élections européennes.
Nous sommes plus de 700 députés jusqu'à présent et je suis l'unique personne d'origine africaine. Je ne suis pas contente d'être la seule.
Cécile Kyenge se rappelle avoir été fixée bizarrement les premiers jours en séance plénière et conclut « Aujourd'hui, on sait qui je suis ».
Stopper la consommation effrénée, adopter un mode de vie plus éco-responsable, les préceptes de la décroissance font de plus en plus d'adeptes dans les pays occidentaux, une tendance de fond qui touche aussi la Suisse. Au pays de l'opulence, des banques et de la finance, les initiatives citoyennes se multiplient dans un esprit de décroissance. Un reportage de Katia Michel.
Bonjour. Bonjour. Ça, je peux prendre?
Oui. Alors, vous avez le droit à 5 objets.
Dans cette petite boutique, inutile de chercher le prix sur l'étiquette puisque tout est gratuit.
Ah, vous ne connaissez pas encore le concept?
Non.
Alors ici, c'est le magasin gratuit. Tout ce que vous trouvez dedans, c'est gratuit. Oui. Mais dans le magasin, vous n'avez le droit à prendre que 5 choses. C'est étonnant les premières fois.
Bonne journée.
Merci. Paris, au revoir.
Catherine, bénévole qui gère la boutique, a beau répéter le concept, un magasin gratuit, partir sans payer, ça laisse forcément un peu perplexe.
Quand on leur explique justement que tout est gratuit, c'est là, hein, bizarre, en Suisse. Oui, ça arrive, vous inquiétez pas, quoi, voilà, c'est cool.
Livres, vêtements, vaisselle, parfums, DVD, jouets, des objets déposés par les uns, récupérés par les autres. L'idée, lancée par le centre socio-culturel du quartier, a séduit Catherine. Elle habite le quartier et consacre plusieurs de ses soirées à la gestion de la boutique.
C'est un souci pour moi d'arrêter de dépenser inutilement, quoi. De vivre avec peu de choses et de la récup. Je trouve qu'on va trop loin dans la surconsommation qui fait que de polluer et de polluer encore. Et on n'est pas plus heureux en ayant toutes ces affaires-là, quoi. Je trouve que le seconde main ou ce genre d'initiative, c'est plus humain. Voilà, puis c'est pas ouvert qu'aux gens pauvres, c'est les gens vraiment qui ont cette philosophie de décroissance, quoi. Je trouve ça génial.
J'aurais énormément de choses à donner.
Oui.
Alors ça se passe comment?
Alors ça se passe ici, mais voilà.
Aude est venue déposer un sac de vêtements enfants et des jouets. Donner au lieu de jeter, une évidence pour la jeune maman.
Moi je trouve ça génial, ça devrait exister partout. Parce qu'on voit beaucoup de choses jetées, même au niveau restaurant, au niveau de tout, surtout en Suisse. Si on voit des choses mises à la poubelle, juste incroyable, quoi. Même neuves, donc c'est un peu dommage.
Ouais. On peut en acheter combien?
5. Alors tu peux pas acheter, bonhomme.
Ah.
C'est gratuit.
Oh cool, bah moi il m'en reste encore 4
cool,
à acheter.
Cool, j'en dis quoi?
Merci.
À seulement 9 ans, Alia et Dylan ont déjà bien compris le concept de la boutique gratuite.
J'ai pris une lotion pour mon père après rasage et des savons. C'est bien vu que c'est gratuit et on peut s'y servir. Par exemple, ça fait pas du gaspillage, on n'a pas besoin de jeter ces choses. Et il y a d'autres personnes qui ne l'ont pas, peut-être qui pourraient les acheter, enfin qui pourraient les prendre.
Et moi, je trouve que ici c'est super parce que on peut prendre des trucs gratuits on peut aussi, il y a des trucs qu'on peut donner ici. Par exemple, j'ai déjà donné des rollers parce que après on gaspille de l'argent. Par exemple, si on jette, c'est comme si on jetait un peu d'argent.
Donner, troquer, récupérer ou encore réparer au lieu de jeter. C'est ce que propose par exemple l'atelier La Bonne Combine à Lausanne.
C'est celle sur la carte qu'on doit retirer pour pouvoir retrouver la même carte et savoir à quel prix elle est.
Pour Christophe, l'un des responsables de l'atelier, il s'agit surtout de lutter contre la société du tout à jeter.
Il y a quand même pas mal de gens qui veulent faire réparer leurs appareils et puis eux, ils arrivent au service après-vente de la marque et on leur dit non, c'est pas possible, ça vaut pas la peine. Alors que oui, c'est possible. On a toujours trouvé que ne parait pas des appareils, ça gaspillait des matières, des ressources, et puis que tant qu'on pouvait les réparer, il faut faire durer les appareils.
Dans cet atelier, des dizaines de cafetières, d'aspirateurs, d'ordinateurs, de fours à micro-ondes ou encore des réfrigérateurs attendent de passer entre les mains de bricoleurs passionnés comme Felice, qui avoue que chaque réparation est désormais devenue un challenge.
À l'époque, on avait vraiment des procédures pour chaque type d'appareil, où les marques promouvaient au fait ces procédures, donc on avait vraiment un vrai suivi sur tout. Maintenant, il n'y a plus, parce qu'ils ne le font plus, donc on est obligé de faire un peu par nos propres expériences. Donc on essaie de faire le maximum pour pouvoir remettre les appareils en état.
Michel est venu récupérer sa vieille centrale vapeur, prête à reprendre du service.
C'est vrai qu'on a tendance à beaucoup jeter entre les ordinateurs, etc. Donc quand on peut recycler, pourquoi pas. Puis c'est vrai que c'est une adresse qui commence à être gentiment connue sur la ville. Donc ils sont débrouillés dans tous les domaines. J'étais assez sûr que le travail serait bien fait. Puis ça me coûte que la moitié du prix du neuf.
En Suisse, la réflexion politique et économique sur la croissance et ses limites n'est désormais plus le credo d'une mouvance minoritaire et altermondialiste. Comme dans d'autres pays occidentaux, le mouvement Les Objecteurs de Croissance se développe. Longtemps considérés comme des empêcheurs de prospérer, ce collectif de citoyens tente de sensibiliser le grand public et les politiques par des débats publics ou encore au travers de Cafés de la décroissance, un moment d'échange et de partage organisé chaque mois avec pour leitmotiv « Vivre avec moins, mais mieux ».
Pas tout à fait décroissant, les marques et inventeurs qui lancent sur le marché des produits toujours plus audacieux, avec le risque parfois de faire un flop. Tous ces objets trop en avance ou carrément à côté de la plaque, on les retrouve dans un musée qui ouvre bientôt ses portes en Suède, le musée de l'échec, une collection d'échecs commerciaux sans cesse enrichis, Violette Goharan.
On dit souvent que célébrer l'échec permet de mieux le dépasser et surtout d'apprendre de ses erreurs. C'est bien l'objet du Museum of Failure, le musée de l'échec, qui va ouvrir ses portes le 7 juin à Helsingborg, dans le sud de la Suède. Là se donne à voir tout ce que le marketing n'a pas réussi à nous faire avaler. Le ketchup vert, du Coca-Cola au café ou bien des lasagnes congelées de la marque de dentifrice Colgate. On y trouve les Google Glass, un masque de beauté qui donne des décharges électriques sur le visage, mais aussi les stylos Bic Rose spécialement étudié pour les mains de femmes. Ces Bic pour elles avaient suscité en 2011 un scandale si énorme que Bic avait dû les retirer de la vente et présenter ses excuses. Outre ce que ces échecs commerciaux disent de notre société occidentale, Samuel West, fondateur du musée et psychologue de formation, veut démontrer qu'il n'y a pas d'innovation sans échec et qu'il faut les regarder pour mieux innover. Reste à souhaiter à ce petit musée de l'échec un grand succès.
Au nord du Portugal, le parc national de Peneda-Gerês compte environ 200 loups. Le loup ibérique, pourtant, ne fait pas l'objet de protection spécifique ni de mesures de réintroduction, mais sa population est stable, voire en augmentation. Dans le parc, bien que l'animal soit encore souvent vu comme une menace, les mentalités évoluent sous l'impulsion de nouveaux habitants. C'est un reportage de Marilyn Darcy.
Cistello est un joli village du parc naturel de Peneda-Gerês. Maison en pierre et culture en étage, le décor de carte postale ne fait pas oublier la rudesse de la vie rurale. Des hivers rigoureux, des étés éprouvants et des loups. Une meute de 40 animaux rôde dans cette région. Hugo Novo et sa femme se sont installés il y a quelques années à Cistello pour y élever des chèvres et faire revivre une activité pastorale pratiquement disparue. Le pari est osé car les troupeaux sont des proies faciles pour les loups.
Dans le parc de Peneda-Gerês, 90% de l'alimentation du loup provient du bétail. Dans cette partie du parc, le loup se nourrit essentiellement de poulains de Garano, les chevaux sauvages, et les veaux de la race Cachena qui vivent tous en liberté dans la montagne. Jamais de bêtes adultes, sauf les chèvres. S'il n'y a pas suffisamment d'animaux sauvages, alors le bétail devient nécessaire au loup. Sans ces troupeaux, je pense que le loup aurait déjà disparu car il ne pourrait pas se nourrir. C'est pourquoi actuellement il est en expansion.
L'aventure a mal commencé pour Hugo. Il a perdu 50 bêtes au début de l'élevage. Un tribut payé au loup, un animal qualifié d'opportuniste parce qu'il mange ce qu'il trouve. Le troupeau est vulnérable quand les chèvres mettent bas. Seule solution, le contrôle des naissances. Hugo Novo.
Le nombre d'attaques ici est très élevé.
Les chèvres sont attaquées quand elles ont leurs petits. Nous, pour qu'on puisse vivre avec le loup, avec ce prédateur, on essaie de savoir quand les bêtes vont avoir leurs petits et on tente d'organiser des naissances synchronisées. Ça permet de réduire les probabilités que les chèvres mettent bas dans la montagne.
Garder les chèvres dans la vallée quand elles ont leurs petits limite l'exposition au danger. Hugo, biologiste de formation, vient de la ville. Il vit avec son temps et a doté ses chèvres de GPS. Il sait ainsi, grâce à son téléphone portable et les satellites, où se trouve son troupeau. Et cela permet à l'éleveur de mieux localiser les chèvres qui vont mettre bas. Dans le parc de Peneda-Gerês, d'autres, comme Hugo, apprennent à vivre avec le loup. L'animal peut devenir un atout, notamment pour le tourisme. Pedro Alarcón qui développe une activité de randonnée à pied ou à cheval.
Le loup, ça peut être un symbole, le symbole d'une nature encore pure et sauvage. Parce qu'un loup, ça ne se trouve pas près d'une ville, ni dans une région très peuplée. Ici, on peut marcher 3 jours de suite sans rencontrer âme qui vive, sans traverser une route, sans voir une maison. Le loup est chez lui.
Des randonnées qui permettent de connaître les habitudes du loup, son habitat, les traces qu'il laisse pour marquer son territoire. Le parc national de Peneda-Gerês joue un rôle d'éducation auprès des enfants des écoles pour leur montrer que l'on peut vivre avec le loup. Abel Marquez, animateur du parc.
On leur parle de la survie de l'animal, qu'il a le droit d'avoir un habitat. Il fait partie de cet écosystème. Et ce n'est pas un animal qui chasse l'homme. Les gamins ont l'idée que le loup est méchant. Nous, on tente de les faire changer d'avis. Tous, sans exception, sont formels. Le loup est nuisible. Ils viennent nous voir avec ce préjugé dans la tête, mais je pense qu'à long terme, notre travail portera ses fruits.
Le partage du territoire entre l'animal et l'homme n'a jamais été pacifique. Le parc national de Peneda-Gerês garde les traces de ces conflits entre les espèces. On y trouve d'étranges constructions en pierre à flanc de montagne, les puits aux loups, des fojos. Isabelle Souza, guide du parc.
Os fojos de lobos, normalement eram construídos em zonas muito escarpadas, com muito desnível.
Les pièges étaient habituellement construits dans les zones escarpées avec un fort dénivelé, car l'homme utilisait les niveaux de la montagne pour construire les pièges dans lesquels l'animal était poussé par les battues. Ce sont deux murs qui forment un V, parfois très haut, pour empêcher le loup de sauter. Ils se terminent par des trous profonds qui pouvaient correspondre au lit des ruisseaux, comme c'est le cas ici. Le loup était poussé vers le trou, il y tombait et mourait.
Aujourd'hui, les fojos appartiennent au patrimoine. Isabelle Souza.
Le loup est protégé par la loi, mais il n'est pas réintroduit. Les meutes se développent, mais c'est la conséquence de la protection et aussi de la récupération des habitats. Le fait que l'on réintroduise les garanos, les chevaux sauvages, ça a contribué à fournir davantage d'alimentation aux loups dans la Serra de Peneda.
Dans le parc naissent des projets de route du loup pour montrer ses constructions de pierre sur la montagne. Car si la méfiance envers l'animal reste vivace, aujourd'hui, le tabou de la cohabitation est en train de tomber.
Après 5 ans de quinquennat Hollande, comment se porte l'économie française et comment a-t-elle évolué au cours de cette présidence par rapport à celle de ses voisins? Élément de réponse aujourd'hui avec Daniel Vigneron de myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Avant de parler de la France, dites-nous comment les économies européennes se sont portées au cours de ces 5 dernières années.
Dans l'ensemble, assez bien Laurent. Souvenez-vous, en 2012, l'Union commençait tout juste à sortir de la tourmente de la crise financière et économique qui avait plongé à partir de 2008 le continent dans la récession. En 2012, l'ensemble de l'UE avait enregistré une croissance négative de 0,5% et un taux de chômage moyen de 11,4%. Or, à la fin du premier trimestre de 2017, le taux d'expansion est remonté à 2%, tandis que le chômage moyen est en baisse de plus de 3 points à 8%. Sur le plan des déficits publics, l'embellie est encore plus spectaculaire. En 2012, 18 pays sur 26 enregistraient des déficits supérieurs à la limite fixée par les critères européens de 3% du PIB. 4 ans plus tard, en 2016, 26 pays sur 28 sont dans les clous et 12 d'entre eux sont même en situation d'équilibre ou d'excédent de leurs finances publiques. En 2012, l'unique pays dans ce cas était l'Allemagne. Cela dit, dans ce tableau tout à fait positif, le seul bémol vient des dettes publiques. Celles-ci restent exactement au même niveau qu'en 2012, soit environ 84% du PIB en moyenne, et 13 pays ont vu leur dette augmenter au cours de cette période.
Alors commençons par la croissance. Comment se situe la France par rapport à ses voisins?
À cet égard, notre pays est vraiment en queue de peloton. Que l'on prenne l'augmentation du PIB sur un an à la fin du premier trimestre 2017 ou encore la croissance annuelle en 2016, qui a été de 1,2% dans l'Hexagone, la France se situe à la 26e place sur 28 et seuls 2 pays font donc moins bien que nous, l'Italie avec un maigre 0,9% de croissance en 2016 et la Grèce dont l'économie a stagné l'an dernier. Cette situation de croissance molle contraste de façon saisissante avec les performances des nouveaux pays membres de l'Union, dont 11 sur 13 voient leur PIB augmenter de plus de 3%.
Une explication, Daniel, à cette contre-performance française?
Essentiellement, elle résulte de la conjonction entre un manque de compétitivité des entreprises à l'export, qui a plombé le solde extérieur, et un cycle de hausse des impôts dans les 3 premières années du quinquennat Hollande, qui s'est traduit par une consommation médiocre. En outre, en 2015 et surtout 2016, l'impact des attentats sur le climat général et le tourisme n'a rien arrangé.
Je suppose, Daniel, qu'en France, le tableau n'est guère plus favorable au niveau du chômage?
Oui, vous avez raison, Laurent. La France est parmi les 3 pays, à côté de l'Autriche et de l'Italie, à avoir vu son taux de chômage augmenter, même si ce n'est que très légèrement, de 9,8% en 2012 à 10,1% à la fin du premier trimestre de cette année.
Sur les déficits publics, est-ce que la France a décroché?
Comme la totalité des États membres, la France a réduit son déficit, ce dernier étant passé de 4,8% du PIB en 2012 à 3,4% en 2016 et même 3,2% fin mars dernier. Mais l'Hexagone est le seul pays avec l'Espagne dont le déficit est encore de 4,5%, a excédé toujours le seuil des 3%.
Qu'en est-il de la dette publique?
Son évolution est évidemment corrélée à celle des déficits. La dette est passée de 89,5% à 96% du PIB en France, alors qu'elle est restée pratiquement constante dans l'Union européenne à un peu moins de 84%.
En somme, Daniel, le bilan économique de la présidence Hollande que vous tracez n'est pas fameux selon vous?
Disons-le, Laurent, il est même franchement mauvais. Sur tous les critères évoqués, la France est désormais classée dans le dernier quart des 28 pays de l'Union. Le résultat d'une politique à contre-temps qui a comprimé consommation et investissement par une hausse de la fiscalité sans améliorer, ou du moins trop tardivement, la compétitivité des entreprises. En outre, la volonté de réduire le déficit dans un contexte de croissance atone a pesé sur les investissements publics.
Merci Daniel Vigneron de myeurope.info. À bientôt sur Accent d'Europe.
À bientôt Laurent.
Et c'est Sophie Jeannin et Richard Rifono qui ont réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40, temps universel.